jour, le secrétaire général va s'adresser à vous sur les échanges tenus par les ministres. Ensuite, il répondra aux questions comme de coutume. Bonjour, nous venons de terminer une réunion très approfondie des ministres de la Défense de l'OTAN et nous avançons énormément, c'est clair, quand il s'agit d'appliquer les décisions prises en automne dernier pour renforcer l'état de préparation et la réactivité de nos forces. Aujourd'hui, nous avons également confirmé que nous sommes unis pour répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés. Nous avons décidé de prendre des mesures pour adapter l'OTAN à un nouvel environnement sécuritaire, environnement qui a changé. Je vais souligner quatre des décisions prises lors de notre réunion. Tout d'abord, nous avons décidé de renforcer encore la puissance et les capacités de la force de réaction de l'OTAN, en incluant les composantes aériennes, maritimes et les forces spéciales. En tout, la force de réaction de l'OTAN renforcée comportera jusqu'à 40 000 militaires. Cela représente une augmentation substantielle par rapport au niveau précédent de 13 000 personnes. Deuxièmement, nous avons pris des mesures pour accélérer notre prise de décision politique et militaire tout en maintenant la maîtrise politique. En fait, cela inclut le pouvoir qu'a notre commandant suprême, le SACEUR, d'alerter, de disposer et préparer nos troupes qui seront prêtes à partir dès la prise de décision politique. Nous avons également approuvé un nouveau concept de planification préétablie. Une planification préétablie détaillée et la prise de décision rapide représentent les deux côtés d'une même médaille. Cela veut dire que nous sommes en mesure de réagir plus rapidement et plus efficacement aux menaces, d'où qu'elles viennent. Enfin, nous avons achevé la conception et la composition des six petits états-majors que nous mettons en place en Bulgarie, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne et en Roumanie. Chaque état-major comportera à peu près 40 personnes et jouera un rôle essentiel dans la planification, en préparant les exercices et pour l'assistance au renforcement éventuel. Nous envisageons de mettre en place d'autres états-majors de ce genre dans d'autres pays de l'OTAN. Et plusieurs alliés ont proposé au cours de la réunion d'accueillir ces petits états-majors. Enfin, nous avons décidé de mettre en place un nouvel état-major logistique interarmée permanent, ce qui nous permettra de déplacer les forces plus rapidement sur tout le territoire de notre alliance avec les approvisionnements nécessaires, le matériel et les moyens de transport nécessaires également. Toutes ces mesures contribueront à une adaptation à longue portée de la posture militaire de l'OTAN en réaction à une nouvelle situation sécuritaire. Simultanément, nous évaluons avec soin les incidences de ce que fait la Russie. Cela inclut ses activités nucléaires. Nous sommes en train de déterminer comment nous allons faire face aux menaces hybrides. Cela inclura un travail en coopération étroite avec l'Union européenne. Que les choses soient claires, nous ne recherchons pas la confrontation et nous ne voulons pas une nouvelle course à l'armement. Ce que nous voulons, c'est préserver la sécurité de nos nations. Nous sommes confrontés à des défis venant de plusieurs directions et nous devons donc être préparés. C'est là notre travail. Nous avons déjà beaucoup fait. Notre force provisoire à haut niveau de préparation menée par l'Allemagne et les Pays-Bas et la Norvège est maintenant opérationnelle. Nous l'avons vu en action dans l'ouest de la Pologne la semaine dernière. Et l'an prochain, la force fer de lance menée par l'Espagne sera en mesure de réagir rapidement à toute circonstance imprévue. En tout, 7 alliés dirigeront cette nouvelle force au fil des années. Je salue l'annonce importante faite par le secrétaire d'État à la Défense, Ash Carter. Il s'agit de prépositionner du matériel américain. Il s'agit de mettre en place aussi des facilitateurs pour notre force à haut niveau de préparation. Cela inclut des aéronefs de transport, des moyens de ravitaillement en vol, les forces spéciales, le renseignement, des capacités de surveillance et de reconnaissance. Avec les contributions importantes des alliés européens et avec d'autres offres de moyens et de forces déclarées aujourd'hui, l'engagement des États-Unis vient compléter un tableau d'un effort véritablement transatlantique pour renforcer notre défense collective. Tous nos efforts d'adaptation de l'Alliance doivent être financés. Au Pays de Galles, les alliés se sont engagés fermement à augmenter les dépenses de défense au cours des 10 années à venir. Nous avons aujourd'hui, au cours de la réunion, évalué les premiers progrès. Le tableau est mitigé, il y a eu des progrès, mais il en faut davantage. Je salue le fait que chaque allié, sans exception, a souligné l'importance de cette promesse. Et les alliés ont présenté les mesures prises pour respecter cet engagement. Nous avons également pris des décisions importantes pour soutenir nos partenaires. Nous avons entériné le paquet de construction des capacités de défense pour aider la Moldavie à renforcer ses institutions de sécurité et de défense. Et nous attendons de terminer le plus rapidement possible le soutien pour la construction des capacités de défense de l'Irak également. Cela étant dit, je suis prêt à répondre à vos questions.
Yes, Brooks Signor James, de James Defense. J'ai une question sur ce qui concerne les plans de réponse gradués. Comment est-ce que ces plans seront établis? Par exemple, est-ce que le SACEUR aura la compétence de définir les hypothèses de planification de crise qui sous-tendent ces GRP, donc de façon indépendante du Conseil? Deuxièmement, étant donné que c'est cette force de faire le lanceur à déployer sur décision du Conseil, que se passe-t-il s'il y a une crise qui se déroule très rapidement? Est-ce que les déploiements des forces de deuxième échelon nécessitent aussi une décision du Conseil ou non?
Bien, pour le plan de réponse graduée, nos plans donnent davantage de détails. Il s'agit de prendre un plan préétabli, établi à l'avance, et avec la rationalisation de notre processus de prise de décision, cela améliore l'état de préparation et la réactivité de nos forces. Nous pouvons donc déployer ces forces avec très peu de préavis. Le tout, c'est que la combinaison de la rationalisation des prises de décision et des plans plus détaillés améliore l'état de préparation et de réactivité de nos forces. Je ne peux pas vous donner les détails de ces plans. Je dirais simplement que des plans plus détaillés et préétablis sont la clé de nos responsabilités essentielles. Il s'agit de pouvoir défendre et protéger tous les alliés contre toute menace, quelle qu'elle soit.
Vladimir Vashenko, Russian Online Media.
J'aurais une question de la part d'un journal russe. Vous avez dit que vous avez prévu de renforcer les institutions de défense et de sécurité de la Moldavie. Pouvez-vous préciser de quoi il s'agit? Quel est l'appui qui est prévu pour la Moldavie? Merci.
Bien. Le but, la vocation de l'accord de construction des capacités de défense conclu pour la Moldavie est d'aider, de porter assistance à la Moldavie pour renforcer et moderniser ses forces armées, sa défense. Nous le ferons en portant assistance et en les aidant à réformer la structure de sécurité nationale de la Moldavie. Nous les aiderons pour moderniser leur armée en passant par de la formation, du soutien et de l'éducation. Et c'est pour cela que le paquet de construction des capacités de défense est si important. Nous pouvons travailler avec des pays partenaires tels que la Moldavie pour les aider à améliorer et à moderniser leur propre défense, la BBC.
Jonathan Marks, the BBC. Jonathan Markeson de la BBC. Monsieur le secrétaire général, tout cela vise sans doute à adresser des signaux de rassurance aux alliés de l'OTAN. Donc, premièrement, est-ce que vous estimez que ces mesures de rassurance ont porté? Est-ce que c'est suffisant? Et puis, deuxièmement, des signaux vis-à-vis de la Russie. Est-ce que vous voyez des indices indiquant que les actions de l'OTAN mènent le Kremlin à reconsidérer sa position?
J'en suis sûr. La Russie sait très bien que l'OTAN est prête et capable à protéger et défendre tous les alliés contre toute menace, quelle qu'elle soit. Et nous adaptons notre méthode parce que le monde évolue. Et je suis sûr que la Russie est informée de notre adaptation. Il voit que nous avons amélioré l'état de préparation et la réactivité de nos forces, que nous avons renforcé notre présence militaire dans la partie orientale de l'Alliance avec plus de police du ciel, plus d'exercices, plus de navires en mer Noire et en Baltique. Et il est certain que l'OTAN est une alliance très forte, c'est su dans l'ensemble du monde.
We'll go to the third row, our Japanese colleague here.
Aito de la télévision japonaise. Vous avez parlé des questions des financements. Le VGTF semble être très coûteux. Est-ce que vous avez déjà des estimations de son coût? Deuxièmement, en ce qui concerne le financement commun, ce sera traité peut-être demain. Est-ce que vous en avez parlé déjà?
Le financement commun, par exemple, de la mise en application du plan d'action réactivité, nous l'approuvons progressivement, par étapes. Lorsque nous approuvons une mesure, nous approuvons son financement commun également. Bien sûr, il y a encore beaucoup de questions à aborder, y compris le financement commun des décisions à prendre à l'avenir. Je n'ai pas bien compris la première partie de votre question.
Combien coûtera le VGTF?
Nous n'avons pas de chiffres précis pour le plan d'action réactivité, mais nous avons pris un engagement, tous les alliés ont pris l'engagement d'interrompre les coupes budgétaires pour la défense en augmentant les dépenses de défense au fur et à mesure que les économies croîtront pour atteindre 2% au bout d'une décennie. Ça fait beaucoup d'argent, mais bien sûr, ce sera une augmentation progressive.
Slovak Media, second row.
Thank you, André Matek.
Merci, André Matek de la Slovaquie. Monsieur le secrétaire général, en parlant avec des différents diplomates et responsables dans ce bâtiment, l'on ne cesse de dire que le fait que la Russie utilise le mot nucléaire dans ses différents discours et rhétoriques, c'est un signe de faiblesse. Qu'en pensez-vous? Et puis une question connexe. Comment est-ce que l'OTAN répondrait spécifiquement à ces menaces nucléaires?
Nous évaluons avec soin les activités nucléaires de la Russie ainsi que ses messages sur le domaine nucléaire. Les questions nucléaires sont des questions très graves. Il est donc très important que l'OTAN les aborde avec prudence, avec prévisibilité et de manière transparente. Les activités nucléaires, les investissements consentis par la Russie dans de nouvelles capacités nucléaires et également les activités d'exercice de la Russie dans le domaine nucléaire font partie d'un tableau plus vaste avec une Russie qui s'affirme davantage et ce tableau d'ensemble qui est la raison de notre adaptation. C'est pour cela que nous améliorons la réactivité de nos forces. C'est pour cela que nous établissons des forces à très haut niveau de préparation. C'est pour cela que nous doublons la taille de l'ANRF. Nous réagissons déjà de manière prudente, de manière responsable au comportement de la Russie et à ses activités russes. les activités russes en font partie. C'est une rhétorique qui est tout à fait injustifiée, ainsi que les activités nucléaires. Ce sont des activités déstabilisatrices et nous devons étudier avec soin les conséquences des actes de la Russie.
Monsieur le secrétaire général, le 19 juin, la Fédération russe a ratifié son soi-disant traité portant sur l'alliance et l'intégration des régions occupées de la Géorgie. Tbilissi appelle à la communauté internationale d'évaluer la situation et de répondre à ces actions russes qui minent l'intégrité territoriale de la Géorgie. Quelle est votre position sur cette question? Et deuxièmement, est-ce que vous avez prévu une visite en Géorgie cette année, notamment pour visiter le centre de formation conjoint?
Tout d'abord, nous sommes tout à fait en faveur de l'intégrité territoriale de la Géorgie, de sa souveraineté. Nous ne reconnaissons absolument pas la prétendue République d'Abkhazie et de Cécile du Sud, qui font partie des frontières internationalement reconnues de la Géorgie. Et nous continuons à apporter un fort soutien politique à la Géorgie, un soutien pratique également. Il y avait un paquet global. Nous travaillons sur de nombreux domaines pour porter assistance à la Géorgie pour qu'elle modernise ses forces armées, sa défense. Et je prévois de me rendre en Géorgie. Je ne peux pas vous dire exactement quand, mais je me rendrai en Géorgie. Et j'attends avec impatience d'y aller.
Mark McKinnon du Globe and Mail du Canada. Vous dites que vous ne souhaitez pas une course à l'armement, mais n'est-il pas inévitable que Moscou va répondre aux mesures que vous annoncez avec davantage de dépenses militaires et des exercices? Est-ce qu'on n'entre pas dans une spirale mécanique qui mène à une course à l'armement?
Nous ne recherchons pas la confrontation. Nous ne recherchons pas une course à l'armement avec la Russie, mais nous devons protéger nos pays, assurer leur sécurité. C'est pour cela que nous réagissons de manière défensive et appropriée. Ce que nous faisons est parfaitement conforme au traité sur la maîtrise des armements et le désarmement, et nous respectons ces traités. La Russie, par exemple, s'est retirée du traité sur les forces conventionnelles en Europe, et les États-Unis considèrent qu'ils violent le traité sur les forces nucléaires intermédiaires en Europe, alors que nous respectons complètement tous les traités sur la maîtrise des armements et le désarmement. Et tous les alliés sont d'accord pour dire que la maîtrise des armements est un élément important de notre renforcement de la sécurité de notre alliance, mais nous devons aussi réagir lorsque nous voyons que les circonstances sécuritaires évoluent comme elles le font. Et je crois que si l'OTAN n'avait pas réagi, si l'OTAN était restée spectatrice sans réagir aux changements à l'Est, avec une Russie qui investit énormément dans le domaine de la défense, n'avait pas réagi à l'instabilité au Sud, à ce moment-là, il aurait fallu s'inquiéter. Mais nous réagissons de manière défensive et responsable.
Robin Newitt de Reuters. J'aimerais savoir si aujourd'hui vous avez évoqué l'idée de amender ou changer le concept stratégique de l'OTAN qui date de 2010, étant donné le changement dans cette relation ou manque de relation avec la Russie. J'aimerais aussi savoir si vous avez évoqué les dépenses militaires. La Grèce, sous la pression de ses créanciers, doit mettre en œuvre des baisses importantes dans son budget militaire. Est-ce que vous en avez parlé?
Bien, pour ce concept stratégique et son remaniement, nous ne l'avons pas abordé aujourd'hui. Il faudra donc y revenir. Nous allons voir aussi si nous allons aborder la question. Pour la Grèce fait partie des alliés qui dépensent plus de 2%. Et je pense que tous les alliés respecteront l'engagement pris au Pays de Galles. ce qui veut dire que ceux qui sont au-dessous des 2% s'approcheront de ce chiffre. Ceux qui sont au-dessus des 2% resteront à ce niveau-là. J'ajouterai également que la vocation de l'OTAN, c'est d'être forte. Le principe, c'est que nous sommes ouverts au dialogue. Nous pensons que la force, c'est une condition préalable à un dialogue avec la Russie. Et le secrétaire d'État Ash Carter, il y a quelques jours seulement, a précisé l'attitude qu'il a contre les États-Unis, c'est-à-dire qu'il nous faut une alliance forte, mais une approche équilibrée. Je pense que c'est une bonne manière de présenter les objectifs de l'alliance.
Over there, question over there, thanks.
Thank you, Simeon Nikulin, Republic of Moldova.
Des médias moldaves. Monsieur le secrétaire général, quel est le risque qu'une instabilité interne en République de Moldavie, va empêcher la mise en œuvre du paquet DCB?
La raison d'être d'un accord sur la construction des capacités de défense avec la Moldavie, c'est d'aider la Moldavie pour que ses forces de défense et que ses forces armées puissent être en mesure de contribuer encore mieux à la défense du pays. Et ça fait partie des efforts de la Moldavie pour qu'elle reste un pays stable et démocratique. Je pense donc qu'il n'y a pas de raison de faire des spéculations sur ce qui se passera si nous ne sommes pas en mesure d'appliquer ce paquet de construction des capacités de défense. Nous venons de l'établir en coopération étroite avec le gouvernement moldave. Je viens de rencontrer des représentants du gouvernement moldave et nous continuons à travailler avec eux.
DG24 News. DG24 de la Roumanie. Monsieur le secrétaire général, quelle sera l'importance des unités d'intégration des forces de l'OTAN? Il y a une de ces NFU en Roumanie. Et quelle est la durée de ces unités?
Ce qui est prévu, c'est que toutes ces unités, tous ces petits états-majors d'intégration des forces soient en place pour la fin de l'année. Et il s'agit de petits états-majors d'environ 40 personnes. Et nous les établissons parce que cela représentera un lien important, un lien vital entre les forces nationales, donc à présent les forces roumaines, et les forces de l'OTAN, forces multinationales. Ce lien est d'une grande importance. Le renforcement sera facilité. Cela facilitera la préparation et l'exécution des exercices, et cela permettra de relier l'OTAN aux différents alliés de la partie orientale de notre alliance, ce qui est important, et cela améliorera notre capacité à nous renforcer rapidement en cas de besoin. Je vais me rendre en Roumanie sans tarder. J'en suis heureux. Nous pourrons parler avec le gouvernement roumain et nous verrons comment nous pouvons établir cette NFU le plus rapidement possible. Mais ce qui est prévu, c'est que les 6 petits états-majors soient en place pour la fin de l'année au moins.
That concludes the press conference for today, but
voilà qui termine la conférence de presse d'aujourd'hui. Nous nous retrouverons demain.